manger ou boire. Elle a besoin de voir pour croire et elle est sûre de ses désirs. C'est une sorte de païenne, une athée sans communauté, sans chichi, sans flafla, sans paillettes. C'est une humaine en fait, ça sent haine. C'est trouver l'amour dans chacun, en chaque chose, les hivers, les beaux jours, la vibration des roses, l'écoulement tranquille du temps. Elle me prend pour un ours et quand elle vient dans ma tanière, elle dit qu'elle est une source. Alors on mélange nos lumières et c'est notre unique prière. Qui elle dit, elle l'a trouvé, elle sait pas où elle dit. D'ailleurs, elle s'en fout. C'est un dieu sans problème, c'est un dieu qui nous aime. Elle dit, son dieu, c'est je sais pas qui. Et il habite, on sait pas où. Et puisqu'il n'existe pas, un dieu qui fout la paix aux gens, qui fout la paix aux gens. Et personne n'en a peur. Il donne des ailes aux amants. Et je suis son fidèle incroyant.
Une autre nouveauté musicale ce matin, Daran avec la pièce LD de son album Endorphine.
Dernière soirée des Francofolies hier, et puis ça s'est terminé avec des hommages. Pour la soirée de clôture des 30e Francofolies de Montréal, une douzaine d'interprètes, dont Claude Pelgag, ont rendu hommage à l'auteur Luc Plamondon à la place des festivals hier soir. Une finale en voix et en beauté. Le texte est de Luc Boulanger de La Presse. Le spectacle hommage s'est ouvert avec la vibrante Martha Wainwright qui entonnait le Parc Belmont. Sa version colle parfaitement à la folie et à l'énergie de la version originale de la Diva du Québec, Mme Diane Dufresne. À l'origine, Stone était un spectacle du Cirque du Soleil présenté à l'été 2017 à Trois-Rivières et aussi un album sur lequel les tubes de Plamondon ont été réarrangés par Jean-Phi Goncalves. Ces nouveaux arrangements confèrent une touche contemporaine et intemporelle aux pièces de l'auteur de Starmania. On voit, c'est un reportage photo, il y a Ariane Moffat, ici Betty Bonifaci, qui a carrément fait exploser la place des festivals avec Oxygène. La chanteuse faisait partie d'une liste impressionnante, dit Laurent Saunier, d'une nouvelle génération d'interprètes féminines québécoises, qui rendait hommage aux grands paroliers présents sur la place des festivals. L'envoûtant hymne au désespoir Le Monde est Stone, repris par les Berries, a fait son cinéma au milieu de la nuit du quartier des spectacles. La Bronze est aussi montée sur scène pour rendre hommage aux paroliers. Accompagnée d'une chorale, Marie-Pierre Arthur a apporté une belle fraîcheur à Ma mère chantait, faisant monter la pièce de Plamondon dans le ciel du quartier des spectacles. Elle a aussi repris avec brio un tube qu'on n'aurait jamais imaginé récupérable, Je danse dans ma tête, juste wow. Gagnante de la première saison de La Voix, Valérie Carpentier a donné du souffle à Call Girl, immortalisée par Nanette Workman. Après un Tiens-toi ben, j'arrive avec Catherine Major, totalement planant, on a proposé un blues du businessman en douceur et en vérité avec Safia Nolin. Moment tout simplement magique de cette soirée sous les étoiles. Toutes les chanteuses de Stone sont revenues sur scène dans une touchante et belle finale pour entonner Ne tuons pas la beauté du monde. Et Luc Plamondon est venu les rejoindre pour les remercier d'insuffler autant de beauté et de talent dans ce monde imparfait. Des films et Equinox Films sont heureuses d'annoncer que le film Whitney de Kevin MacDonald prendra l'affiche le vendredi 13 juillet prochain. Lancé en séance de minuit lors du dernier Festival de Cannes, le documentaire retrace la vie de la célèbre chanteuse et actrice Whitney Houston, morte de façon tragique en 2012. Elle a vendu 200 millions d'albums. Elle détient le record du plus grand nombre de numéro 1 consécutifs. Sa chanson I Will Always Love You est le titre le plus vendu par une chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire, voici la vraie Whitney Houston. Connue pour avoir réalisé le film The Last King of Scotland et le documentaire oscarisé One Day in September, Kevin MacDonald signe avec Whitney son 17e long-métrage. Grâce à des images inédites et réalisées avec l'aval des proches de Whitney Houston, le film arrive à percer certains mystères entourant la star et pose un regard intime sur celle que l'on surnomme aussi The Voice. Whitney revient notamment sur le parcours tumultueux de l'artiste qui, selon les révélations troublantes du long métrage, aurait été agressé sexuellement dans son enfance par sa propre cousine, la chanteuse soul Dede Warwick. Whitney sortira en salle en version originale anglaise et en version sous-titrée en français le 13 juillet. Beyoncé et Jay-Z lancent un album surprise. Le couple star de la musique a créé la surprise en annonçant sur scène à Londres samedi la sortie d'un nouvel album commun pour célébrer leur amour. Intitulé Everything is Love et comptant 9 titres, l'album est sorti exclusivement sur Tidal ou Tidal, propriété de Jay-Z. Il n'est pas offert sur Spotify, plateforme concurrente dont Beyoncé se moque à grand renfort de jurons sur Everything is Love. Le couple a également publié une vidéo qui se déroule au Louvre pour l'un des morceaux APES*T. Alors, j'imagine que c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer à haute voix à la radio. Après avoir dévoilé des pans moins heureux de leur vie intime dans leurs albums individuels précédents, Beyoncé révélant l'infidélité de son mari dans Lemonade, et Jay-Z lui demandant pardon sur 444, ou en tout cas 4h44, la diva de la pop et le rappeur superstar semble avoir désormais tourné la page. « Nous avons des défauts, mais nous sommes toujours parfaits l'un pour l'autre », chante Beyoncé sur Love Happy. Des thèmes chers au couple comme l'identité afro-américaine et l'indignation face aux injustices sociales se trouvent aussi sur « Everything is Love ». Thank you. Rockfest, 13e du nom, les milliers de festivaliers qui ont participé au Rockfest de Montebello ont plié bagages hier et repris le chemin de la maison, avec pour la plupart un mal de bloc, les tympans amochés, un coup de soleil ou deux, et le réservoir d'énergie à sec. Retour en photo donc sur cette 13e édition qui semble avoir comblé les attentes, mais qui a été assombrie par la mort d'un festivalier. Trois jours de festivités plus tard, la page est maintenant tournée. Le soleil de plomb qui a régné en maître absolu dans le ciel de l'Outaouais vendredi et samedi a rapidement fait oublier la pluie qui avait contribué lors de la soirée d'ouverture du jeudi soir à rendre le site de spectacle légèrement boueux. Au tourniquet, l'organisation du festival parle d'un succès. Phil Roy s'invite chez V. C'est une année de rêve pour Phil Roy. L'humoriste de 30 ans promène encore son spectacle Monsieur un peu partout au Québec. Il a amassé trois citations en prévision du Gala des Gémeaux pour son travail sur ALT et SNL Québec, celui de Magali Lépine-Blondeau. Et il vient de ratifier un gros contrat avec la chaîne V pour piloter son propre talk show itinérant à l'hiver, me rapporte des sources bien connectées, c'est Hugo Dumas dans la presse. L'émission de Phil Roy porte le titre temporaire de Phil à la maison. Le concept, simple et original, toutes les semaines, l'animateur se rendra à la vraie résidence d'une vedette québécoise, d'où il chauffera son talk show. Les entrevues pourront se dérouler dans le salon, autour de l'îlot, de cuisine ou même dans la salle de bain. Et pas question de tricher. L'invité qui acceptera la visite de Phil Roy montrera son véritable nid aux téléspectateurs et non un appartement loué pour l'occasion. En plus de Phil et du convive hôte, deux ou trois autres copains ou copines du showbiz se grefferont à chacun des 11 épisodes d'une heure commandés par V. Autre particularité intéressante, toutes les émissions se concluront de la même façon, soit la routine du dodo, alors que Phil Roy bordera l'invité principal dans son lit avant de quitter les lieux. $180 millions. Le public avait visiblement hâte de retrouver le incroyable ou les incroyables, plutôt 14 ans après leur premier opus. Le film de Pixar sur les nouvelles aventures de la famille au super pouvoir a empoché $180 millions dès le week-end de sa sortie en Amérique du Nord. Les Incroyables 2 au Québec. Et en anglais, c'est Incredibles 2. Donc réussi. Ainsi, le plus gros démarrage jamais enregistré par un film d'animation, loin devant le record précédent de $135 millions établi par Finding Dory, Trouver Doris, en 2016.
Monsieur Jean Leloup et de son album Les Fourmis, c'était la pièce Voyager.
Dans les mises à jour de la presse Plus, on parle de la mort de Clément Ouimet, décès accidentel, conclut le coroner. Le décès du cycliste Clément Ouimet, survenu sur la voie Camillien-Aude le 4 octobre dernier, était accidentel, conclut le coroner Jean Brochu, dont le rapport a été dévoilé ce matin. Mais plus important, le docteur Jean Brochu dit souhaiter que de meilleures mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes les plus vulnérables dans les rues, autant dans le parc du Mont-Royal que dans le reste de l'île de Montréal. Clément Ouimet, 18 ans, avait violemment percuté un VUS alors que le conducteur tentait un virage en U. Le cycliste a heurté la portière arrière gauche et a été éjecté sur la chaussée. Contrairement à certaines informations qui ont circulé, le vélo de Clément Ouimet était muni de freins. Le rapport du coroner signale d'ailleurs que la manœuvre du VUS a probablement surpris le cycliste dont la roue arrière n'a laissé sur l'asphalte qu'une marque de freinage de moins d'un mètre. Le cycliste est mort des suites d'un traumatisme crânio-cérébral. On revient avec la Coupe du Monde et la chronique de Marc Cassivi. Je vous en ai lu une la semaine dernière et je vous en lis une autre aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de soccer. Tout peut arriver. On prédit depuis des années un changement de garde, un nouvel ordre mondial du soccer. On parle de la montée en puissance du football africain, de la maturité de nations jusqu'ici négligées. Or, une fois de plus en Russie, l'Allemagne et le Brésil sont les deux grands favoris de la Coupe du Monde. Hier, pourtant, les géants européens et sud-américains, 9 Coupes du Monde sur 20 entre eux, se sont butés à des opposants tenaces à Moscou et à Rostov-sur-le-Don. Les Allemands, champions en titre, ont été défaits par des Mexicains sans complexe. et les Brésiliens, bien lancés en première mi-temps, ont été rattrapés par les Suisses. Après le match nul entre l'Argentine et l'Islande samedi, s'il y a une leçon à tirer de ce début de tournoi rempli de surprises, c'est qu'aucune nation n'est à l'abri d'une contre-performance, qu'aucune équipe n'est imbattable et que tout, vraiment tout, peut arriver. Le Brésil est arrivé au Mondial russe avec une double mission. Remporter une 6e Coupe du monde et conjurer le sort de 2014 en lavant l'affront fait par l'Allemagne à son Mondial. En demi-finale à Belo Horizonte, il y a 4 ans, les Brésiliens avaient subi la plus lourde défaite de leur histoire. Menés 5-0 dès la 29e minute et ayant encaissé 4 buts en moins de 6 minutes, les Oriverdes avaient été humiliés 7-1 par les Allemands, marquant leur seul but à la 90e minute. Il s'agissait de leur première défaite à domicile depuis 1975. Hier, on espérait voir le plus beau visage offensif et revitalisé du Brésil face à la Suisse. On a été rassuré en voyant Philippe Coutinho marquer de l'une de ses fameuses frappes enroulées de l'extérieur de la surface avec poteau rentrant dans la lucarne à la 20e minute. C'était l'étincelle, croyait-on, pour lancer l'électrisante machine offensive brésilienne. La preuve du retour du Jogo Bonito des plus belles années de la Seleção, pardon pour ma prononciation, S-E-L-E-C-C-D-A-O. C'était de faux espoirs. Le Brésil a cessé d'attaquer au milieu de la première mi-temps, laissant aux Suisses le loisir de faire circuler le ballon sans grande menace. Au retour de la pause, en revanche, les Brésiliens, laxistes et nonchalants, ont laissé Steven Zuber fin seul dans la surface sur un corner. Il a marqué de la tête à la 50e minute alors qu'il était entouré de 5 adversaires statiques. Les protestations brésiliennes à propos d'un léger contact dans la surface étaient vaines. Par la suite, les Oriverdes ont semblé tétanisés, abandonnant pour de longues minutes le contrôle du match à la Nati, qui jouait de manière lucide la contre-attaque par Shaqiri et Dzemeli, un ancien de l'Impact. En s'appuyant sur une défense hermétique. Le Brésil a manqué de fluidité et de solutions et malgré des attaques lancées en désespoir de cause, en toute fin de match, n'a pu réchapper les points concédés. Ce nul de 1-1 avait des airs de défaite contre une opposition somme toute modeste. Les Brésiliens pourront peut-être se consoler en se disant que pour une fois, les Allemands ont fait pire. Jeux de société, on joue. Les jeux de société ne se démodent pas. Au contraire, les nouveautés abondent. Une fois par mois, nous en testons 5 sorties récemment. Alors, je ne vous parlerai pas de tous ces jeux, mais je vais quand même vous en proposer 2. Vol stratégique, le but du bazar des voleurs est de terminer la partie avec le plus de points de notoriété possible. Pour y parvenir, les joueurs doivent faire l'acquisition de cartes qui les mèneront vers cet objectif. À tour de rôle, ils lancent les dés et choisissent leur part du butin, tout en ayant la possibilité de voler celui des autres. On passe ensuite à la phase d'acquisition Uran, laquelle les plus fins stratèges peuvent se munir de cartes qui convertissent des ressources, sinon contiennent des hommes de main ou des points infamis qui paieront en fin de partie. Alors le jeu s'appelle Le bazar des voleurs et c'est pour les 14 ans et plus. Autre suggestion? Roi de la ville, construire un gratte-ciel plus haut que celui de son voisin, ou pire, se l'approprier en s'emparant du sommet. Voilà quelques exemples d'actions qui donnent des points au jeu Manhattan. Chaque joueur doit construire son empire dans les limites dictées par les cartes pigées au hasard. Il peut choisir de s'établir à l'endroit de son choix, sinon décider de bloquer ses adversaires. Les parties durent 6 rondes et les points sont cumulés à chacune d'elles. Il n'y a pas de mauvaise stratégie, mais ne comptez sur personne d'autre que vous. C'est chacun pour soi. Alors, le jeu s'intitule Manhattan, c'est pour les 8 ans et plus, et l'avis de la personne qui l'a essayé, c'est un article signé Evelyne Audette. Ce jeu, dont l'esthétique mériterait grandement d'être revue, est tout de même très divertissant, autant entre adultes qu'avec des enfants. L'équilibre entre le hasard et la stratégie est parfait et les parties suscitent une bonne interaction entre les joueurs. Et pour revenir sur l'autre jeu dont je vous parlais tantôt, le bazar des voleurs, la vie, Le grand nombre de dés et la possibilité de faire des relances rendent le contexte très aléatoire, mais le jeu nécessite tout de même une grande réflexion et beaucoup de stratégie. Et l'été glacé au banc d'essai. Il me reste pas beaucoup de secondes, mais parmi les meilleurs choix, la première place de notre banc d'essai, c'est un banc d'essai de Isabelle Huot, revient à la compagnie Pure Leaf pour son thé glacé au citron non sucré. Ce produit ne contient aucune calorie et est sans sucre ni sodium. Sa liste d'ingrédients se limite à 3 composantes simples, du thé infusé, de l'acide citrique et de l'arôme naturel. Sans additifs, on aime ça. Pour les amateurs de thé glacé, il s'agit certainement d'une option à essayer. Oui, très belle journée pour boire un vrai bon thé glacé. Vous pouvez vous en faire aussi des encore plus nature, maison, pourquoi pas. Et de l'eau, c'est tellement désaltérant. Hein? C'est la boisson la plus désaltérante qui soit. Alors, ne vous déshydratez pas parce que vraiment, c'est humide, mais l'orage va faire en sorte que demain, on va se retrouver dans des températures plus agréables, du temps en tout cas moins humide. Ici Hélène Denis, merci Jean-Sébastien Laliberté. À demain.